J'aimerais vous proposer une toute petite présentation qui peut-être paraîtra tellement banale et inutile à certains d'entre vous, ou pas, ou au contraire, qui rappellera des choses oubliées depuis longtemps. Et aussi, si vous voulez bien qu'on prenne un petit temps d'échange et de discussion aussi ensuite. Je tenais à proposer ce sujet des vertus pour notre discussion, pour nos rencontres, pour être honnête, un peu suite à la rencontre avec McIntyre. Voilà, sommes-nous après les vertus ou pas vraiment, comment le penser? Et aussi, une des raisons en plus, c'est que l'éthique chrétienne, la morale chrétienne, se redécouvre ou s'est redécouvert d'une manière assez spectaculaire allez, 100 dernières années. Je pense qu'un des tournants les plus importants, c'est quand même l'abandon de la morale d'obligation. Mais pourquoi? Mais vis-à-vis de quoi? Parce que de fait, spontanément, si on pose les questions, mais la théologie morale, de quoi est-ce que ça parle? Ben, on dira de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est permis, ce qui est interdit. Pas la question qu'on nous pose à nous les religieux le plus souvent, est-ce que vous avez droit de faire ceci ou faire cela? Ce qui signifie que spontanément, la matrice dans laquelle on pense un comportement éthique religieux, c'est avoir droit, ne pas avoir droit. Donc, il y a une question de précepte, d'obligation. Quel est le devoir moral qu'il faut honorer ou non? On ne pose jamais ici la question, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous plaît? Pourquoi vous le faites? Quel est le sens de ce que vous faites? Est-ce que vous avez droit? Est-ce que vous n'avez pas droit? Et dans les années 60-70, lorsque cette impossibilité de raisonner dans la logique post-kantienne devenait une sorte d'évidence, il y avait toute une série des réponses diverses et variées, entre autres un frère qui a beaucoup marqué la pensée éthique, morale, catholique francophone, disons comme ça, au XXe siècle, qui était le père Pinkers, qui rappelait une chose tout à fait basique, à savoir que Jésus commence sa prédication par bienheureux. Heureux êtes-vous aussi. Que Thomas, lorsqu'il va commencer la partie morale de la somme, va commencer non pas par la question du devoir, il commence par la question de la béatitude. C'est-à-dire que ce vers quoi nous nous tendons, quel est le but de notre vie, qu'est-ce qui nous rend pleinement existants. Et donc du coup, il voulait montrer, je pense tout à fait justement, que l'obligation était là dans la mesure où elle pointait le bien et elle indiquait le bien à atteindre. Et le problème, c'est qu'on peut prendre l'indicateur pour le point d'arrivée. On peut prendre le panneau avec une pancarte qui indique la direction pour le but. Et je pense que de fait, la réduction de l'éthique chrétienne à la question du devoir, des devoirs, les devoirs d'État, y a joué beaucoup. Est-ce que cette réponse, c'est la question du bonheur qui est déterminante, fondamentale, première, ultime dans la vie morale et satisfaisante. Et oui et non. Et oui, parce que bien sûr, c'est un peu la tradition dont nous héritons de la part d'un enracinement gréco-romain, de la part de la tradition classique qui peut être la nôtre. Mais aussi, très concrètement, la question se pose très vite, à savoir, comment est-ce qu'on discerne ce qui est bon. Comment est-ce qu'on discerne ce qui est juste, ce qui est noble? Et dès qu'on entre dans les discussions de ce type, nous nous retrouvons très vite dans l'argumentation que McIntyre appelle émotiviste. C'est-à-dire, on part sur, voilà comment je ressens les choses. Il n'y a aucun jugement de mépris lorsque je parle ici de ressenti. Mais on suppose qu'il y a en nous comme une sorte de boussole qui permet de goûter, de discerner au goût entre ce qui convient ou ne convient pas faire. Et ceux d'entre vous qui ont fréquenté les exercices moraux de la philosophie analytique ont rencontré 50 000 fois cette fameuse histoire avec le petit train qui descend, la wagonnette qui descend, et du coup, d'un côté, si ça part à droite, vous écrasez ceci, si ça part à gauche, vous écrasez cela. Vous ne pouvez pas arrêter la descente de ce petit train. Ce que vous pouvez faire uniquement orienter donc votre train veille d'une manière ou d'une autre. À quoi ça sert cette petite expérience de pensée ? Que tout d'un coup, ça oblige de prendre conscience que comme spontanément, nous disons que si d'un côté on a un condamné à mort et de l'autre côté on a une femme enceinte, ben on va orienter notre trame vers le condamné à mort et sauver la femme enceinte. Bon, d'accord, très bien, spontanément. Et après coup, on est obligé d'argumenter. Ce qui est intéressant ici, c'est comment est-ce que cet exercice de pensée est construit. On provoque chez vous une sorte de réaction spontanée que vous êtes obligé de rationaliser après coup. Donc il y a une sorte de l'émotion au sens extrêmement large qu'après il convient de formaliser. Mais par quoi est-il déterminé cette perception de ce qu'est bien, de ce qu'est le bonheur? Par quoi est-ce qu'est formé ce goût moral qui nous fait avoir honte de certains types d'actes, qui loue d'autres comportements, qui permet d'agir comme par un instant dans cette multiplicité des situations imprévues. N'est-ce pas ? Un cambrioleur surgit devant la fenêtre, je réagis. Voilà. Quelle est cette réaction qui est presque immédiate et presque spontanée? Mais ce spontané, d'où vient-il ce spontané? Quelle est la part de la culture qui nous porte, de l'éducation? Et surtout, et c'est là où notre sujet intervient grandement, des choix moraux que j'ai déjà posés. Car tel l'homme est, tel est le bien qu'il se propose, qu'il ressent. Et du coup, nous découvrons, entre autres avec cette perspective des vertus, un aspect extrêmement important, me semble-t-il, de notre vie spirituelle, de notre vie intérieure, son historicité. Mes choix moraux ne partent pas de point zéro. Il y a ce qui les précède et ce qui les fonde, d'autres choix qui les précèdent. Et sur le coup, ces choix que j'ai déjà posés forment un homme que je suis. Et du coup, ma perception du bonheur sera d'autant plus fine que je sois un homme vertueux. Parce que c'est ça le grand paradoxe ou problème des éthiques de bonheur, c'est qu'encore faut-il que ce bonheur soit désirable. Encore faut-il que ce bonheur-là soit désirable. Et spontanément, il n'est pas du tout sûr qu'il soit choisi d'emblée en dehors de l'éducation vertueuse. Pour revenir à ce que vous évoquiez, Timothée, avec cette question de sottise chez saint Thomas, pas parce que c'est ça, pourquoi est-ce que la sottise ici sera une sorte de vice, en vice et non pas en défaut des capacités intellectuelles, parce que je perds le goût des réalités spirituelles parce que je suis pris dans les plaisirs sensibles. Autrement dit, les biens supérieurs qui de soi procurent le plaisir beaucoup plus grand ne sont pas appétissants pour moi. Pour moi. Parce que ma sensibilité morale est forgée par les dispositions des vices et des vertus qui fait que ce bien supérieur qu'est la contemplation des substances séparées, si on est dans les lignées aristotéliciennes, où chacun reconnaît aisément que quel plaisir plus grand peut-on concevoir, n'est-ce pas, les substances, les entités mathématiques. Un bonheur de vivre en compagnie de d'autres préfèrent, je ne sais pas, la boostify et le gros rouge et que sais-je encore. Ou la tauromachie. Ou la tauromachie.
Hein? Moi, c'est réel, parce que les êtres
mathématiques
sont des êtres de
raison. Exactement. Et tandis que de l'autre côté, je repense à un confrère, pour ne pas Garrigou Lagrange, grande figure du thomisme extrêmement formaliste, rien ne vaut une promenade en compagnie d'un bon concept. Bah, c'est quand même pas un ami, un concept. Voilà, comment est-ce qu'on se structure de sorte que la plus belle amitié qu'on puisse lier, c'est l'amitié avec le concept de l'âne. Pas l'âne réel, le concept de l'âne. D'où l'intérêt, je pense, de compléter dans cette sortie de l'éthique de l'obligation, de la morale du devoir, de compléter l'aspect, l'éthique du bien, l'éthique du bonheur, par l'éthique des vertus. Première introduction, si j'ose dire. Deuxième introduction, Jésus ne parle pas des vertus. Ben, vous avez beau lire tout le corpus évangélique, vous n'y trouvez pas le discours sur les vertus. Hein. Cela, et c'est très intéressant, n'en déplaise à notre ami Jésus philosophe, c'est qui ?
Frédéric Lenoir.
Voilà, en cela, n'en déplaise à Frédéric Lenoir, Jésus ne se positionne absolument pas comme le philosophe de l'univers hellénistique. Parce que précisément, on l'attendrait sur la question d'une cohérence absolument universelle pour l'Antiquité pré-chrétienne, la vie heureuse, la vie bienheureuse, les vertus qui sont d'accès à cette vie bienheureuse. Comment on pense les vertus, c'est une autre question. Les vertus, la vertu, c'est une autre question. Mais cette connexion, la béatitude, les vertus, ça fait partie d'une sorte de grammaire absolument universelle de l'univers gréco-romain. Jésus utilise visiblement notre grammaire. Ben, parce que heureux les pauvres en esprit, le royaume des dieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, c'est une vertu. Là, on sent que l'appareil conceptuel commence à partir un peu en vrille et a du mal à mouliner tout cela. Jésus ne parle pas des vertus. Du coup, est-ce que le discours sur les vertus soit juste une contamination postérieure par l'hellénisme du message évangélique? Donc, une grande thèse de la contamination de l'évangile par le monde hellénistique, où pour retrouver Jésus véritable, il faudrait précisément oublier à jamais l'idée de Jésus philosophe, déshelléniser le christianisme et retrouver cette veine purement prétendument biblique, sémitique de raisonnement. Bon, je n'entre pas dans ce débat qui me semble être bien sûr faux, inutile. Je renvoie pour cela au discours de Ratisbonne de Benoît XVI, etc. L'univers dans lequel Jésus vit connaît la doctrine des vertus. Entre autres, dans les textes grecs des Écritures qui circulent dans l'univers hébraïque et qui seront retenus par l'Église comme faisant partie des textes canoniques de l'Ancien Testament, dans le livre de la Sagesse, on a les fameuses quatre vertus qui vont devenir les quatre vertus cardinales. Donc avant Jésus, la pensée biblique intègre sans trop de problèmes l'enseignement hellénistique sur les vertus et les quatre vertus en question qui sont en toutes les lettres. Il est clair aussi que Jésus ne part pas directement là-dedans. Ce qui l'intéresse, c'est quelque chose d'autre, à savoir la vie de l'union avec Dieu, l'adoption filiale que Dieu nous procure dans le salut, le royaume des cieux qui exige, qui s'incarne et qui se déploie immédiatement dans un certain éthos, dans un certain comportement éthique, même si lui-même ne le décrit pas avec le modèle des vertus. Donc, est-ce que c'est faire violence à l'enseignement du Christ que de décrire cet éthos qu'il propose au moyen de vertus? Je ne le pense pas, et voilà pourquoi. Et voilà pourquoi. Et là, il faut entrer un peu dans l'aspect un peu scolaire. Vous m'excuserez si je rappelle quelque chose qui vous est absolument classique. Pour que la vie surnaturelle puisse se déployer, elle ne peut pas être uniquement un rajout à la vie humaine déjà pleinement accomplie. Comme s'il y avait d'abord l'humanité naturelle accomplie, l'humanité qui s'accomplirait uniquement au plan d'ici-bas, et pour certains, ou parfois, se rajouterait la vie de foi, d'espérance et de charité. Ben, si on parle du salut dans l'Écriture, c'est qu'on dit que pour que l'homme retrouve sa pleine stature, il faut que cette vie de l'union avec Dieu, de foi, d'espérance et de charité, pour reprendre l'expression paulinienne, donne la vigueur à son organisme naturel. Autrement dit, l'homme sans la grâce, ce n'est pas l'homme en état de nature. Pour obtenir l'homme, la nature pure, c'est une pure fiction de raison extrêmement tardive, apparaissant dans la scolastique mourante. L'homme sans la grâce, ce n'est pas l'homme naturel, c'est l'homme en deçà de la nature, c'est l'homme qui, et là, la Bible utilisera tout ce vocabulaire, qui est l'esclave du péché, qui est dominé par le péché, il n'est pas purement et simplement homme. Et du coup, pour penser cette articulation assez aisément, le christianisme dans l'univers gréco-romain reprendra la doctrine des vertus, et particulièrement dans sa forme aristotélicienne. De quoi s'agit-il ? Pas la vertu aristotélicienne et, comme vous savez bien, l'habitus, c'est-à-dire une sorte d'instance intermédiaire entre la faculté et l'acte. Il ne suffit pas d'avoir la raison pour pouvoir écrire ou lire. Faut-il encore apprendre à le faire. Cette faculté doit s'exercer d'une certaine manière pour parvenir aisément puissamment, et d'une manière plaisante, heureuse, à poser l'acte immédiat. Donc il y a un certain savoir-faire. En cela, les vertus au sens les plus larges, je caricature, c'est pas exactement comme ça, mais pour faire simple. La vertu, les habitudes seront une sorte de savoir-faire. Ça peut être un savoir-faire technique qui produit quelque chose d'extérieur. J'ai appris à fabriquer les meubles. Je sais faire bien, je gagne ma vie avec, j'ai un certain plaisir à. J'acquiers une certaine virtuosité dans la fabrication des chaussures. Il y a le savoir-faire qui ne produira pas les objets extérieurs, qui en cela ne sera pas technique, qui produira les opérations de l'esprit. Lire, compter, parler, s'exprimer bien, quelque chose que je n'aurais jamais, chanter juste, que sais-je, une certaine virtuosité qui va à la fois modifier, entraîner, renforcer la faculté. Pas donc l'exemple qui est derrière, c'est bien sûr dans la culture antique l'exemple sportif, l'exemple de l'entraînement. Tout comme l'athlète exerce et du coup agit puissamment, agit avec une joie, avec un plaisir dans l'exercice de sa force, de même celui qui a appris à penser, à calculer, à bien s'exprimer, voilà, agit avec puissance, perfection, produit un acte qui soit parfait dans son genre. Et c'est entre autres ici qu'on a ce qu'on va appeler donc les vertus intellectuelles, qui permettent de bien penser des manières diverses et variées. Le problème ici est que je peux être un excellent mathématicien et un mauvais homme. Autrement dit, la perfection de l'acte, même si c'est un acte interne, calcul mental, ne suffit pas à rendre bon celui qui le pose. Et du coup, c'est là où apparaissent les vertus morales, qui, comme vous souvenez bien, non seulement rendent bonne l'œuvre, je fais excellemment mes lacets, je cuisine bien, je calcule bien, mais rend bon celui qui l'accomplit. Je suis un homme bon, pas uniquement un bon mathématicien, je suis un homme bon. Il y a l'excellence de l'humanité. Donc ce qui présume que la nature humaine soit un certain dynamisme qui exige l'exercice, qui exige le perfectionnement, qui s'auto-perfectionne, qui s'entraîne, qui s'éduque, qui acquiert action puissante. Et aussi, ce qui est extrêmement important dans l'idée de la vertu, et c'est tragique que c'est totalement passé à la trappe au cours des siècles, qui procure le plaisir. C'est pas l'action vertueuse est une action qui procure la jouissance la plus grande, la plus forte. Plus la faculté est exercée, plus l'agir moral est exercé, plus on éprouve un bonheur de vivre cet acte, se sentir activement vivant. Pour Aristote, vous vous souvenez aussi, d'abord le bon naturel, qui est une condition sine qua non. Pas, donc vous avez le mauvais naturel, c'est fichu pour vous. Je pense que d'une certaine manière, il y a une sorte de bon sens qui essaye d'entrevoir quelque chose de la vérité du péché originel. Voilà. Il y a quelque chose qui est brisé, qui ne marche pas. Vous avez beau essayer, vous avez beau vous entraîner, il y a... Ça s'enclenche pas, il ne suffit pas. Et puis, bien sûr, l'exercice, l'éducation, paideia, voilà, tout cet univers-là. Donc, la vertu grandit par la répétition des actes. C'est en posant les actes de justice qu'on devient juste, c'est en s'exerçant en courage qu'on devient courageux, tout comme c'est en s'exerçant à l'écriture qu'on devient un homme de lettres. Bien. Et là, le christianisme va introduire quelque chose d'assez bizarre de point de vue purement aristotélicien, qui sont ce qu'on va appeler les vertus théologales et plus largement les vertus infuses. Pas les vertus théologales, foi, espérance et charité, ont ceci de particulier que ces vertus ont Dieu pour source, pour contenu et pour terme. Pas en Dieu pour source, pour contenu et pour terme. En cela, c'est très intéressant, la vertu romaine de la religion n'est pas une vertu théologale. La vertu romaine de la religion rend au Dieu ce qu'il aurait dû, à savoir le culte. C'est une forme de la vertu de justice, partie potentielle de la justice, on rend au Dieu ce qu'il aurait dû, le culte. Cette vertu, on ne nous demande pas de croire au Dieu. On ne nous demande surtout pas de les aimer, hein. Voire même votre opinion sur les dieux n'intéresse absolument personne. Ce qu'on vous demande, c'est d'accomplir les actes de culte là où ça doit être fait et de la manière dont cela doit être fait. On voit très bien que cette vertu de religion n'est pas une vertu théologale. C'est pas parce que c'est Dieu qui le dit, pas la révélation biblique. C'est pas de Dieu qu'il s'agit, et c'est certainement pas vers Dieu que ça porte. Je répète encore une fois, cette déclaration de Sénèque absolument fondamentale, il est ridicule de prétendre qu'il puisse avoir une amitié avec Dieu, que l'homme puisse avoir l'amitié avec Dieu, parce qu'il n'y a pas de vie commune, il n'y a pas de communauté de vie, il n'y a pas de societas. Pas de société de vie. Donc vous lui rendez le culte. à l'idée qu'il puisse avoir le lien de foi, d'espérance et de charité, c'est quelque chose d'assez troublant pour l'univers gréco-romain et que l'univers biblique ici apporte. Est-ce que ces vertus sont créées par Dieu, produites par Dieu, grandissent par leur exercice? C'est en posant les actes de foi qu'on devient croyant, c'est en posant les actes d'espérance qu'on devient davantage espérant. C'est en refusant de poser ces actes que cette vertu créée par Dieu diminue, s'abîme, voire même se trouve paralysée. Et ce qui est très intéressant, je le disais, ce que le christianisme va appeler les vertus infuses, en réalité ce sont l'ensemble des vertus que Dieu produit dans l'âme qui est beaucoup plus large que les vertus théologales. La justice prendra une forme tout à fait particulière. La chasteté prendra une forme tout à fait particulière. Au fond, n'importe quel comportement humain prendra une couleur particulière, comme on dit au Moyen-Âge, sera informé par la charité. Il y a ce thème qui apparaissait un peu en arrière-fond chez Leibniz hier, n'est-ce pas, cette charité qui devient la forme, en quelque sorte, de toutes les vertus. Prenons le cas extrêmement simple, n'est-ce pas, l'infirmière qui prend soin des malades pose un acte de justice. Elle est payée pour ça. On ne lui demande pas de les aimer. On s'en fiche réellement. Elle est de bonne humeur. Elle est de mauvaise humeur. Elle est comme ci, elle est comme ça. Elle est payée pour apporter les soins. Et voilà quels soins, de quels soins il s'agit. Autrement dit, elle travaille. Il s'agit d'établir la relation de justice. Qui prendra dans le régime chrétien, et on peut espérer plus largement humain, qui sera informé par la charité, sans cesser d'être une vertu de justice, cela prendra une couleur, un goût, une forme de charité. Ce qui donnera à l'agir humain, à tout l'agir humain dans son historicité, le goût du ciel. Et maintenant, j'arrive à un point qui, au fond, a motivé un peu tout ce parcours. Il se trouve que ces dernières années, j'étais amené à me pencher un peu sur la question des abus de conscience. Voilà. Dans l'Église, on va parler beaucoup des abus sexuels. C'est quelque chose de particulièrement révoltant et tragique, très visible. Mais il ne faut pas oublier que c'est une forme particulière de quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grave aussi par certains côtés, qui est cette emprise de conscience, qui est l'abus des consciences, qui n'est absolument pas réservé à des clercs, qui n'est pas réservé à des hommes, etc. Et un des aspects qui m'a beaucoup intéressé lorsque je me suis penché sur la question, c'est que l'univers mental qui permet l'instauration des abus de conscience dans l'Église, cet univers est caractérisé parmi beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas l'unique caractéristique, mais parmi beaucoup d'autres choses, par la disparition du thème des vertus. Par la disparition du thème de vertu. Comme si, en entrant dans le monde surnaturel, on sortait de l'obligation morale de la vie vertueuse avec son historicité, sa durée, sa progressivité, sa responsabilité morale, sa part dans la construction de la personne. On veut une sorte de court-circuit qui nous permettra de passer par-delà le vertueux pour entrer dans le surnaturel. Et le vrai surnaturel dans cet univers qui favoriserait les abus commencerait là où les vertus, en quelque sorte, arrêteraient leur course. Comme s'il y avait la procession en trois temps. D'abord la vie ascétique, voilà, il faut se purifier de quelque chose qui nous empêche d'entrer dans la vie vraiment spirituelle, dans la vie vraiment chrétienne, d'accord ? Après la vie des vertus, qui très souvent, surtout au 19e, était vue à travers les devoirs d'État. Et une fois on est arrivé au bout de cela, s'ouvrait un autre royaume avec d'autres lois, d'autres types de relations, qui serait le surnaturel, entre guillemets, pur. Et je pense qu'une fois on a ce chemin d'une manière plus ou moins consciente en tête, là, les abus deviennent extrêmement faciles. Les abus deviennent extrêmement faciles. Parce que nous, c'est le discours qui revient très souvent, nous vivons quelque chose d'extraordinaire. Vous ne pouvez pas comprendre ce que nous vivons. Les autres ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons. La relation que nous vivons est tellement unique que les autres ne peuvent pas la comprendre. C'est une relation de charité. Et la charité, ce n'est certainement pas une amitié soumise à des lois ordinaires. Parce que nous, nous vivons dans quelque chose d'extraordinaire. On se retrouve au-delà de la loi, on se retrouve au-delà du vertueux. Du coup, ce discours de progressivité, de l'exercice, de la responsabilité morale doit être un peu comme une sorte de partie de fusée qui restait derrière, et on entre sur une autre orbite des relations. Il est très frappant que rien de tel, mais rien de tel chez saint Thomas. Autrement dit, aucune vie surnaturelle qui serait autre que la vie vertueuse. Aucune vie surnaturelle qui serait autre que la vie vertueuse, c'est-à-dire la vie de charité, d'espérance, de foi, de justice, de tempérance, de force et de prudence, où les vertus cardinales sont informées, n'est-ce pas, imbibées, portées par les vertus théologales. Et à la périphérie de tout cela, mais vraiment à la périphérie, il y a les visions, les extases, le rapte mystique, etc. Mais ce sont les choses tout à fait mais vraiment périphériques dans la somme. Et par ailleurs, chez Thomas. Et au début, ça semble être extrêmement décevant. Mais donc, toute la vie mystique que Thomas veut nous proposer, ce n'est que la vie des vertus. Et oui, toute la vie mystique que Thomas veut nous proposer, c'est la vie de vertu, parce que toute la vie mystique que Dieu veut nous proposer, c'est la vie de l'amour de Dieu et de prochain, qui s'incarne dans les actes extrêmement concrets, inscrits dans l'histoire, avec l'imperfection de notre humanité, leur historicité, leur progressivité, voilà. Voilà. Et surtout, et je terminerai par cela, ce qui est très intéressant, c'est que deux petites choses ici. La première, je pense que c'est aussi cet oubli de la logique des vertus qui a rendu en grande partie incompréhensible le texte de Maurice Laetitia, du pape François, n'est-ce pas ? Parce que le pape François, très clairement, avant de parler des situations régulière et irrégulière, parle des situations imparfaites. Mais ce n'est pas du tout la même distinction. C'est pas... Parler du régulier et d'irrégulier signifie qu'il y a une loi par rapport à laquelle nous jugeons les cas qui y entrent ou qui n'y entrent pas. Et c'est au fond assez binaire. C'est régulier ou c'est irrégulier. Et donc si on n'est pas dans le régulier... Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup attendaient de ce texte du pape. Donnez-nous les cas d'exception. Donnez-nous le process. Comment est-ce qu'il faut faire ? Je refuse de vous donner le process. Parce que le jugement moral s'exerce à partir de l'attitude vertueuse. Qui dit imparfait, dit il y a une historicité de la croissance de la personne dans le bien, en parfait signifie que nous tendons vers le parfait d'une manière organique, longue, et c'est à partir de là que régulier ou irrégulier commence à intervenir. Premier aspect. Deuxième aspect, ça m'a aussi frappé un peu dans... Il y a un an, j'étais au chapitre général de l'ordre, face à tel ou tel type de déviance, la réaction, c'était trois langues officielles, l'anglais, le français, l'espagnol. Pour l'univers anglo-saxon, dès qu'on entre dans le cadre des comportements déviants, établissons un process. Comment on réagit? Que fait le supérieur? Que fait la communauté? Que fait le frère? Qui fait comment? Donnez-nous un protocole. Cela ne signifie pas, je ne pense pas que ce soit inutile. Mais je pense que le protocole ne remplacera jamais la vertu de chasteté. Le protocole ne remplacera jamais la vertu de la pauvreté volontaire dans la vie religieuse. Autrement dit, si dans l'union conjugale, il n'y a pas de croissance mutuelle dans la charité conjugale, ce n'est pas le code et le process qui permettra de garder ou de ne pas garder la famille. Ce sont des registres un peu différents. Donc sans la croissance vertueuse, le protocole s'avérera, me semble-t-il, ultimement inutile. Et le protocole trouvera toute sa place quand il y a la volonté de la croissance vertueuse. Et le dernier point, celui par qui je commençais, n'est pas tel on est, tel est le bien qu'on conçoit, qu'on perçoit. Sauf que tel qu'on est, c'est aussi quelque chose d'historique. C'est-à-dire que je change avec les actes que je pose. Ces actes me construisent d'une manière ou d'une autre dans les vertus ou dans les vices. Et donc le bien, le bonheur que je perçois et que je goûte change aussi avec ma progression vertueuse, ma régression dans les vices. Parce que précisément, la logique des vertus permet d'introduire l'historicité dans ce que tel on est, tel est le bien qu'on se propose. Si j'ai le mauvais naturel, pas d'issue possible. Parce que le bien ultime ne m'attirera jamais. Ce ne sera pas un bien pour moi, puisque je suis un homme vicié. Je suis un homme vicié, mais je suis un homme vicié qui entre dans la logique de la rédemption, du salut, de la croissance, ou même les vertus que Dieu crée en moi, sont données à ma garde et je les cultive de sorte que ce bien qui au début n'était pas si désirable que ça, devient désirable pour moi à force de ma progression. Donc voilà, d'où me semble-t-il, pour ces cas un peu extrêmes et pour ces cas un peu basiques, l'intérêt de parler des vertus, me semble-t-il, dans la théologie morale. Voilà. Voilà ce que j'avais un peu à dire. Voilà. Ou par remarques, questions, objections, réflexions, etc. Marc.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque à concevoir du coup la charité comme un supplément d'âme, c'est-à-dire justement que ce soit un accident en quelque sorte?
Non, parce que la charité n'est pas un accident. Précisément, elle devient un accident si nous pensons que l'homme se construit naturellement et après on saupoudre ça de charité. Ou la charité devient l'amour des épinards, c'est-à-dire l'amour de ce qu'on n'aime pas. Il y a ce que j'aime déjà, mes amis, mes proches, ça c'est l'amour naturel. Et pour l'amour des ennemis, autrement dit les épinards que je n'aime pas, Dieu donne la vertu de charité. Au contraire, la charité est la vertu racine. Et du coup, la foi, l'espérance et toutes les vertus infuses sont les formes de charité. Et vous vous souvenez probablement chez Augustin de ce passage où il présente les vertus cardinales comme les formes d'amour. N'est-ce pas? Où la tempérance est l'amour qui veille soigneusement à écarter tout ce qui s'oppose à la justice et l'amour qui rend à chacun ce qui lui est dû, etc. Où toute la vie vertueuse devient autant de facettes de cette vertu racine qui est l'amour. Et j'étais très sensible. Qui évoquait ça ce matin? Qui parlait de l'amitié et la vertu?
C'était peut-être moi.
Peut-être vous.
Oui.
Parce que ça, c'est très intéressant, l'idée. Pas, l'amitié par elle-même, c'est pas une vertu. N'est-ce pas? Mais il y a quelque chose de foncièrement vertueux dans une amitié véritable. Et c'est très intéressant que la tradition classique, dont Thomas est un des représentants, il n'est pas l'unique, pour penser la charité, ne partira pas sur la piste de l'éros platonicien, mais de l'amitié, où la charité est une forme d'amitié qui est introduite dans la société de vie. Et au fond, le premier à réintroduire l'éros platonicien pour penser charité, ça sera Benoît XVI. Autrement dit, il a fallu 2000 ans de désintoxication de l'éros platonicien pour qu'on ose le réintroduire dans la théologie de la charité, étant sûr qu'on voit très bien qu'il ne s'agira pas de l'expérience de type orgaïstique, ou de ce que l'éros platonicien peut avoir de raisonnement égotique, où au fond le bien-aimé est en marche-pied vers le bien en tant que tel. C'est pas le bien-aimé que j'aime, c'est la beauté qui se reflète dans le bien-aimé que j'aime. C'est précisément pour cela que l'union sexuelle avec le bien-aimé ne doit pas avoir lieu, puisque c'est pas lui le bien qui est aimé, c'est la beauté qui se reflète en lui. Dans la charité, on aime l'autre. Et pas uniquement on aime l'autre à cause de Dieu, on aime l'autre. On aime l'autre. C'est autre chose que l'éros platonicien. Autrement dit, cet éros a dû subir aussi pas mal de choses. Voilà, donc je pense que, pour revenir à votre question, Marc, bien sûr que la charité n'est pas un supplément d'âme, elle est l'unique nécessaire. C'est pas l'amour des épinards, c'est vraiment l'unique nécessaire. C'est l'unique nécessaire.
Alors qu'est-ce que vous... Parce que en parlant de Pinkas, parce que souvent, ceux qui critiquent les vertus, c'est au nom de la liberté. Liberté qui va justement atomiser chaque acte et faire qu'il n'y a pas cette idée de développement ou d'historicité, en fait. Alors, qu'est-ce que vous leur répondriez à ceux qui préfèrent ou posent liberté et à la notion de vertu?
Je pense que, et entre autres, c'est pour ça que je suis très sensible à ce que McIntyre évoque, à cette idée de narratif. C'est-à-dire que nous vivons chacun dans une histoire. Nous nous racontons notre propre histoire. Et l'agir moral n'est jamais en dehors de l'histoire. Et c'est, je pense, qu'une des forces précisément de McIntyre de rappeler qu'il n'y a pas d'abord l'individu qui après décide de fonder le contrat social. Que nous naissons comme des personnes humaines à l'intérieur d'une certaine communauté. Que nous naissons comme des personnes humaines à l'intérieur d'une certaine histoire. Et qu'en dehors de l'histoire, il n'y a pas d'agir moral du tout. Il n'y a pas d'agir moral du tout de cette historicité. Parce que je tends vers quelque chose et ce quelque chose est inscrit dans mon histoire. Choisir, c'est préférer. Et cette préférence, elle n'est pas un acte qui part de rien. Elle tient, comment dirais-je, pas comme nos plis, comme les cicatrices que nous portons, ou comme les capacités que nous avons déployées. Nous sommes quelque chose qui est aussi formé par nos choix. Et c'est là précisément où on montre la grandeur de cette liberté de l'homme, où l'homme se construit dans son histoire et devient ce qu'il choisit. Et en cela, le jugement de Dieu ne fait que le fixer dans ce qu'il a fait de sa vie. Donc je pense que, bien sûr, que ce n'est pas une liberté d'un individu atomique, sans société, sans histoire, nulle part, qui créerait un acte à partir de rien, tout simplement que je pense à aucun moment, aucun sujet moral n'est dans une situation de création ex nihilo. Ne serait-ce que par le fait que le sujet est déjà donné à lui-même. Est déjà de donné à lui-même. Je me découvre déjà donné à moi-même. Pas le premier cri de nouveau-né marque déjà qu'il y a un besoin qui clame quelque chose. Et se positionner en dehors de cela, c'est un peu illusoire.
Oui,
C'est comme si au bout du premier parcours cartésien, au bout de ce doute, et avant d'arriver à cogito, où j'ai pas de corps, j'ai rien, absolument rien, mais et c'est là où je pose un acte moral. Comme si on devait poser un acte moral avant même la découverte de cogito. Ce qui est quand même, me semble-t-il, un peu problématique. Hein. Et comme si c'est cet acte moral premier fonderait le cogito. Non, je pense que même dans l'idéalisme subjectiviste le plus, hein, on n'est pas quand même là-dedans, me semble-t-il.
Ça fait penser à la limite, il y a déjà des cogitata et puis des choses qui sont pensées par moi.
Avant même. Et n'est-ce pas, et dès que je commence, ce qui est quand même prodigieux dans l'agir humain, dès que je pose le premier acte, je découvre en quelque sorte quel est le deuxième. Il y a quelque chose de cette expérience de Jacob qui fuit son frère, qui passe cette nuit en mettant une pierre sous sa tête, et là, cette vision de l'échelle. Jacob avec Dieu qui se manifeste au-dessus, qui renouvelle l'alliance avec lui, et il se révèle en disant « Dieu était là, ce lieu est redoutable, c'est vraiment la porte du ciel et la maison de Dieu, Dieu était là et je ne le savais pas. » C'est après coup que je découvre qu'il y avait déjà quelque chose qui me fondait. Que mon acte premier, en réalité, était déjà la réponse à l'appel.
Pierre aussi.
Ah.
Non.
Peut-être.
Oui. Le symbole de la pierre, c'est par là peut-être que justement apparaît justement le rapport qui n'est pas celui de la subjectivité.
Oui, mais quelque chose.
Une échelle entre ce qui est là, présent comme un pivot, un axe par rapport à tout ce qu'il voit.
Oui, mais encore fois, c'est un homme biblique, c'est un homme qui ne se prend pas pour le centre de l'univers, hein, qui gravite autour d'un autre centre que lui.
C'est la pierre en fait.
Oui, d'une certaine manière, oui, c'est cette pierre qui est le temple de Dieu et la porte du ciel, et c'est par rapport à elle que je découvre le sens de mon histoire.
Il est le dernier des derniers, celui à qui on a tout pris, il ne reste plus que cette pierre, et c'est cette pierre qui est le pivot.
Qui permet de retrouver la promesse, il y a quelque chose de cela. Voilà, les vertus.
J'ai une autre. Alors déjà, il y a une remarque qui peut être sur la vie communautaire qui me paraît tout à fait applicable et actuelle à propos de la vie civile. C'est l'illusion qu'on puisse substituer la loi à la vertu. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème moral, pourquoi il n'y a pas une loi qui dit qui interdit ceci ou cela, enfin,
parce que aussi, ce qu'il y a derrière, il y a l'horreur tout à fait compréhensible. Quand l'État s'érige un éducateur moral, comment garantir qu'il ne soit pas un État totalitaire? Ce qu'on attend des hommes d'État d'être vertueux, déjà, vous vous souvenez de cette histoire grivoise de M. Griveaux, sur quoi est parti, c'était très amusant, hein, dans les commentaires, sur quoi est parti immédiatement les réactions officielles, en quelque sorte du monde médiatique, vous ne pouvez pas toucher à la vie privée de cet homme. C'est scandaleux de publier les images de cet homme. Tout avec une sorte de bon sens français, une sorte de rire rablaisien des gens normaux qui trouvent en fait la situation ridicule. que la posture de cet homme est ridicule, que son comportement est ridicule. Et vous voyez ces journalistes qui sont obligés de dire ce qu'il faut dire et qui ne peuvent pas s'empêcher de rire en même temps du caractère grivois de la situation. On ne va pas exiger la vertu des hommes d'État. Oui, non, point d'interrogation. On n'attend certainement pas d'État qu'elle soit l'éducateur des vertus. On ne veut pas d'ordre moral, parce qu'on a l'expérience des totalitarismes qui est quand même extrêmement près. Et en même temps, on a encore un sentiment que le process, le protocole, ne remplacera pas le vertueux. Mais là, je pense qu'il faut aussi se redire, c'est un des aspects, à mes yeux, de cette infini débat sur la laïcité, que l'État n'est pas la société. L'État n'a pas à se substituer à la société. Et que la communauté politique, c'est pas l'État, c'est la cité. Et l'État n'a pas à être l'éducateur vertueux, peut-être, ou à l'être, peut-être, à discuter, mais la société éduque d'une manière ou d'une autre. Pas comme dit d'une manière toute bête Aristote à la suite de ses prédécesseurs, ce qu'on loue et ce qu'on blâme. Et la société, elle loue quelque chose et elle blâme quelque chose. Et de ce fait, elle éduque ses citoyens, parce qu'elle dit ça c'est louable, et ça c'est blâmable. Mais est-ce que la société peut ne pas faire appel au noble, n'est pas à la catégorie du noble? C'était une réflexion de Pierre Manant qui m'a marqué à l'époque, n'est-ce pas? Le discours étatique ne peut pas faire appel au noble, à la vertu, ne doit pas faire appel au noble, très bien. Et en même temps, quand il y a la situation comme celle avec le colonel Beltrame, il y a une sorte de consensus national qui s'arrête en disant, voilà, ça, cet acte est noble. Et ça s'impose par sa noblesse même. Et là, on voit que l'État lui-même se trouve être ordonné à quelque chose qui le dépasse. Qu'il ne doit pas l'instrumentaliser, certainement. S'il peut se souvenir quand même que le noble est aussi une catégorie morale, et ça veut dire quand même quelque chose, c'est bien, me semble-t-il. Me semble-t-il. Griveaux.
C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie du personnage.
Oui.
Il se présente
en défenseur de valeurs familiales.
Voilà, comme un bon père de famille, quelqu'un qui passe sa journée à travailler. Et qui quand même ne s'accorde dans la journée que le droit le matin d'aller amener ses enfants à l'école. Et là, c'était surtout la blague, c'était le matin, quoi. Ouais. Quand il a fait ça, c'était très drôle. C'était la décalage entre le discours, la posture, on va dire. Ça, c'est très machiavélien. Il dit méfie-toi de ta posture, Machiavel. Si tu joues à ça,
tu seras pris là-bas.
Tu seras pris par ça. Ouais. Quand il raconte l'histoire du. Le seigneur qui arrive, qui s'est acheté une armure pour paraître plus grand, qui enlève le casque, et quand on le voit, c'est un nain. C'est exactement grivois, quoi. C'est-à-dire, je me mets une armure, je suis un bon père de famille, je n'ai qu'une seule chose dans ma vie le matin, quand je me lève, c'est un petit truc où je garde quand même pour mes enfants le droit de les amener à l'école. Et puis en fait, le matin, il envoie.
Et ce qui est quand même, je trouve aussi c'est problématique, n'est-ce pas, la remarque d'un étranger, n'est-ce pas, la France qu'on aime, c'est la France qui rit des tartuffes. C'est ça la France qu'on aime. Et quand on dit non, vous ne pouvez pas rire des tartuffes, parce que tartuffe, c'est sa vie privée, et vous ne pouvez pas rire des tartuffes, si, on doit rire des tartuffes, parce que c'est aussi ça ce qui fait grandeur de génie français. Hein. Surtout que là, en étant homme politique, c'est pas tout à fait un particulier qui construit sa vie privée comme bon lui semble.
Si ça avait été Jacques Chirac, Jacques Chirac avait quand même une photo de lui à poil à Brégançon.
Mais oui, c'est pas lui qui l'a envoyé.
Non, c'est pas lui qui l'a envoyé déjà, il aurait pas envoyé ça.
En fait, c'est ça toute la grande différence.
On voit bien mais si cette photo était apparue, il sort sur. Parce que cette photo existait, il sort sur son balcon à poil, Jacques Chirac, on le prend en photo. Admettons que la photo passe, mais les Français auraient juste rigolé Parce qu'il n'y avait pas d'hypocrisie.
Oui. Parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie.
Voilà.
Parce qu'une personne.
On est deux fois en train de draguer des femmes.
Parce qu'à quoi le bon peuple français n'est pas puritain.
Il était tout aussi ridicule, mais en fait.
Les Français ne sont pas puritains. Voilà, ils n'ont jamais été. Et c'est très bien comme ça.
La posture de Jacques Chirac par rapport à ce qu'il est et ce qu'il montre, se coordonne. Là, ce qu'il y avait avec. C'est ça, c'est ce que vous dites, Jean-Pierre. C'est-à-dire, c'est la posture de l'hypocrite qui est mise en jeu et qui est.
Je crois pas. Est-ce qu'on attend vraiment des hommes politiques qui soient vertueux? J'ai l'impression qu'on a peur qu'ils fassent mal leur travail ou alors qu'ils piquent de l'argent, ça. Mais parce que j'ai l'impression que là.
Et c'est là où on revient à.
Ils prennent de l'argent, parce que s'ils prennent de l'argent, ça veut dire que. Bon, c'est quand même c'est quand même l'argent de nos impôts, donc ils nous volent, donc bon. Mais s'ils volent les autres, à la limite, c'est pas grave.
Oui, et là, c'est une. Mais c'est un peu comme la question d'infirmière, il y a la justice du travail bien fait.
La justice du travail bien fait, et il y a, comment dire, la charité qui accompagne, qui précède, je sais pas, mais enfin, en tout cas.
Mais là, je surélèverai un peu. Oui. Enfin, hier, pour revenir à ces questions de vertu épistémique, est-ce qu'il faut être. Je pense qu'il faut avoir la vertu de la véracité pour être en scientifique. Donc, il y a une attitude morale qui fonde la recherche. Il est tout à fait clair pour un Aristote. Que celui qui ne peut pas gouverner sa propre vie, qui n'est pas un homme prudent dans le sens aristotélicien, ne peut pas gouverner la cité. Et là, on va dire non, mais là, vous pouvez être amoral ou immoral dans votre vie privée et avoir une vraie prudence politique. Ce qui suppose qu'on accepte l'idée anglo-saxon, qu'il suffit d'avoir le protocole, et dès que vous suivez le protocole, vous êtes dans le clou. On ne peut rien vous demander de plus. Et je pense qu'on attend quand même de l'homme de gouvernement, si c'est un homme de gouvernement et pas uniquement un fonctionnaire, qu'il y ait un tout petit peu plus que la mise en place des protocoles. Et ce un petit peu plus, langage. Oui, bien sûr.
C'est pas la question d'être parfait, etc., mais effectivement, qu'il y ait quelque chose en lui qui relève d'une noblesse supérieure simplement à quelqu'un qui est en train d'agir de manière...
Oui, et parce que je pense que c'est pas comme on prêche bien, on prêche avec son humanité, on réfléchit avec son humanité, on est artiste avec son humanité, en cela la qualité de l'humanité intervient dans l'acte artistique, dans l'acte de prédication. Et je pense que la qualité de l'humanité intervient de l'acte de gouvernement. Et quand nous parlons de vertu, c'est pas correspondre à une règle morale, savoir cette qualité de l'humanité qui permet que les actes soient excellents. Et il y a des gens minables. Et les gens minables gouvernent d'une manière minable.
C'est-à-dire qu'il y a une différence entre Charles de Gaulle, malgré tous ses défauts, et monsieur Griveaux, c'est sûr. C'est très visible, immédiatement.
Visible, je ne sais pas, mais bon. Mais c'est vrai que ce qui est. Oui.
Non, je...
oui, mais c'est vrai que quand on dit oui, vous pouvez gouverner au sens plénier du terme, hein, pas uniquement appliquer les protocoles. Vous pouvez gouverner sans que votre humanité, avec toute sa richesse, soit impliquée.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose sans que toute l'humanité, avec sa richesse, soit impliquée? Est-ce que c'est spécifique? Enfin, ce que j'arrive pas à bien saisir dans votre discours, est-ce que c'est quelque chose...
Non, je pense pas que ça soit spécifique. Mais de même qu'on va dire, vous pouvez être un homme minable et être un excellent mathématicien, vous pouvez être un homme minable et être un grand homme d'État. Je suis pas sûr. Voyez-vous, là, je suis pas sûr. Parce qu'il y a un peu plus que le simple application des schémas déjà élaborés.
Oui, il y a une question. Excusez-moi... d'ailleurs, on en a parlé en octobre, vous aviez dit que contrairement à Bernanos, par exemple, il y avait chez Dostoïevski une certaine tendresse pour justement les minables.
Mais bien sûr.
Et l'idée que la religion, la mystique même, était possible, y compris dans les bas-fonds. Enfin, je
pense qu'il y a ce que je disais pour venir à cette discussion, que je pense que. Un des traits qui me semble très important dans la littérature russe, c'est la possibilité que l'auteur se reconnaît dans ce minable. pas. Ce qui rend... J'aime pas Soo Jung-sin, j'aime pas son écriture, j'aime pas sa langue, j'aime pas sa posture, il m'agace assez profondément. Et en même temps, je ne peux pas... Je dois céder devant sa grandeur, au moment quand dans l'archipel Goulag, il dit « Et à ce moment-là, j'ai compris, en parlant de l'officier du convoi, que cet officier, celui-là, aurait pu être moi. » Si mon histoire avait tourné un peu différemment. C'est quand il s'est vu dans le bourreau, pour de vrai, et c'est pas une sorte de passe-posture, il a vu qu'il a en lui de quoi faire le bourreau. Là, voilà, on entre dans une sorte de vérité, me semble-t-il. Mais ce qu'on est pécheur, c'est une chose. Ce qu'on soit un hypocrite médiocre, ceci en est un peu une autre.
Là, on se fait ce chemin, parce qu'il y a beaucoup, comme on disait hier soir, puisqu'on en a parlé, il y a quand même beaucoup de personnages chez lui, dans lesquels il montre que dans leur médiocrité, ils tendent vers quelque chose de tragique.
Oui, mais il y a.
Dans la mouchette, je pense.
Oui. Mais, c'est surtout Blois, je pense, qui m'a fait. Ah, un peu. Oui. Il y a surtout cette forme de charité haineuse chez Blois qui me laisse un peu perplexe. Hein. Voilà.
Oui, ce sera pour plus tard, mais faites la différence entre le pécheur et l'hypocrite médiocre.
Oui, parce que dans le pécheur, dans le sens qu'il se sait pécheur.
Oui, il est moins pécheur que l'hypocrite médiocre, du coup, mais...
Oui, vous avez tout à fait raison, mais... Vous avez tout à fait raison. Bien sûr que... pas l'hypocrite médiocre est bien sûr aussi un pécheur. Et plus pressant parce qu'il ne le sait pas. Parce qu'il il ne le sait pas. Le pauvre, il ne le sait pas. Et il ne sait pas que ça fait partie de sa misère. C'est cet aveuglement. Et il y a quelque chose de très frappant, n'est-ce pas, dans le texte de Saint Jean, quand on dit, voilà, l'Esprit, quand il viendra, convaincra le monde de son péché. Et ce n'est pas uniquement qu'il l'accusera de son péché. Ce n'est pas qu'en sorte de l'accusation extérieure. Il lui fera voir. Voilà, quand l'esprit arrive, il fait tout d'un coup voir que, bah, qu'il faudra changer beaucoup de choses.
Si on dit, comment on peut être... d'un côté, on dit que le pécheur qui se sait pécheur, qui est du coup dans une démarche de rédemption, il est un pécheur qui est médiocre, mais l'hypocrite médiocre, s'il ne sait pas qu'il pêche, il n'a pas conscience.
Bah ça, c'est une excellente question. Il y a qui renvoie, n'est-ce pas, précisément à cette question de la croissance de vertu et de la perception ou la non-perception du bien et du mal. Ce qui est très intéressant lorsque vous accompagnez les personnes moralement très pauvres, ce qui ne présume absolument pas de leur niveau intellectuel, c'est l'insensibilité morale. Ces personnes ne voient pas qu'elles font souffrir les autres, qu'elles font souffrir les autres. C'est ça, ça ne se voit pas. Et ça ne se voit pas précisément parce qu'il y a la vie vertueuse, elle est tout à fait embryonnaire. Et plus elle progresse, plus la responsabilité morale, et pas le sentiment de culpabilité, on en a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas progresse. Et c'est très difficile, et je pense à peu près impossible de l'extérieur, s'il n'y a pas de travail de grâce de l'intérieur. C'est un peu comme le baron Munchausen qui prétend de se tirer de marécage par les cheveux. Là, on ne peut pas se tirer de marécage par les cheveux. Il faut que quelqu'un d'autre nous prenne et nous tire. Autrement dit, si la grâce n'intervient pas dans notre vie, ben on est fichu, on restera aveugle.
Ça ressemble à crime et châtiment. Ouais. Le chemin de crime et châtiment.
Ouais, peu à peu, il découvre que...
Et la grâce intervient aussi par Sonia, d'une
certaine manière. Et du coup, pour revenir à ce que... Est-ce qu'on est dans le cas scolastique, classique, de l'ignorance invincible? C'est que je fais le mal, mais j'ignore jusqu'à tel point que je fais le mal que ça ne me pose même pas de problème moral. Je suis né, j'étais élevé dans le tribu où le cannibalisme est une pratique absolument ordinaire, normale. J'ai aucune occasion de saisir que c'est une pratique. Du coup, je la pratique sans aucun cas de conscience. Bien sûr qu'on ne va pas dire que la personne fait bien. Bien sûr qu'on dira que dans le cas de l'ignorance invincible, la personne est moralement irresponsable. Moralement irresponsable. Faisons un petit pas en plus. Et l'esclavage. Je vis dans la société esclavagiste, tout le monde est convaincu que c'est l'ordre des choses. J'ai une théorie de l'esclavage par nature portée par l'autorité d'Aristote. Est-ce que je suis dans le cas de l'ignorance invincible? En quel moment l'ignorance invincible devient l'ignorance coupable? Pas ce que vincible. Et c'est là où, au fond, de fait, il n'y a que Dieu qui peut juger. Hein. Mais quand est ce petit titillement de ma petite conscience qui me dit, mais regarde, il y a un petit problème. Et elle ne me dit pas encore, c'est mal. Elle me dit, ça cloche un peu. Et je dis, non. Et c'est là où je choisis de ne pas voir. Et c'est là où est-ce que... Et c'est pour ça que le péché par omission est si grave. Parce que j'ai choisi de ne pas voir. Voire même, à force de choisir de ne pas voir, ma conscience s'endurcit. Excusez-moi pour l'expérience personnelle, je me souviens très bien de l'immense sentiment de honte que j'ai éprouvé en voyant pour la toute première fois un mendiant dans la rue. Après, c'était la chute de l'oignon, voilà, ça y est, le monde ancien. Un sentiment de honte. Quelle honte! Comment est-ce possible? Honte brûlante. Aujourd'hui, bon, je fais ce qu'il faut faire, je fais pas ce qu'il faut faire, je sais pas si, je peux en discuter longuement. Mais quoi qu'il en soit, ce sentiment, voyez-vous, vif, brûlant, insupportable de honte, je ne l'éprouve plus. Ma conscience est endurcie et elle est devenue insensible, aveugle, elle est viciée sur ce point. Face à un mendiant, je n'éprouve pas ce sentiment vif de l'injustice qui fait que le monde vacille en quelque sorte. Ça fait partie, parce qu'on ne peut pas survivre avec ça. Parce que ça serait impossible de survivre avec ça. Et bien sûr, et je rationalise.
Parce qu'on a besoin d'esclaves.
Voilà.
Pourquoi il y a des esclaves? Parce qu'on
en
a besoin.
Oui. Mais en quel moment je commence à justifier ma dureté de cœur? Et c'est pour ça que je pense beaucoup à cette phrase de Tchekhov qui dit, voilà, que voilà, on peut à vivre tant que il y a ce petit homme avec cette petite ce petit marteau qui frappe quelque part au fond de cœur en disant il y a un malheureux dans le monde. Et tant qu'il est là encore ce petit voilà, oui, mais pendant que vous mangez les encœurs. Mais tant que je garde conscience qu'il y a ce souci moral, tout n'est pas perdu. Hein, tout n'est pas perdu. Hein? Oui, mais voilà, mais tout ça pour dire que c'est très facile dans le cas d'école d'imaginer la frontière lisible et traçable, l'ignorance invincible, vivez en paix, braves gens, responsabilité morale, 100%. On est toujours dans quelque chose d'imparfait, et c'est très intéressant aussi, toute cette doctrine catholique, pour résumer très simplement, vous devez toujours obéir à votre conscience, mais vous devez éduquer votre conscience. Mais vous devez éduquer votre conscience. Et comment est-ce que j'éduque ma conscience? C'est une grande histoire. C'est un univers qui s'ouvre. Comment est-ce que la conscience se trouve-t-elle? Entre autres par la pratique des vertus. Hein. par la pratique de vertu. Et pour revenir à l'histoire avec le mendiant, oui, parce qu'il y a une certaine pratique de justice sociale, de l'assistance sociale, qui fait que ce qui au début était une sorte d'apax impensable entre dans, je suis désolé, une histoire. Une histoire. Et il y a aussi la responsabilité morale qui s'y exerce. Voilà. Bon, ben voilà, il est temps d'aller prier un peu. Merci beaucoup pour votre attention. Vêpres au repas. Non, Arnaud, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, stop, je coupe la chose.